permettez-moi ce matin de penser aux Français juifs. Ils sont 600 000 sur le sol de France. Et tous, ou quasiment tous, ont un fils, une mère, un frère, un cousin, un parent en Israël. Depuis des années, nombre de juifs du monde entier font leur alia. Ce mot hébreu qui signifie « ascension », mais qui est surtout synonyme de retour, retour symbolique bien sûr. Nombre de juifs français ont quitté le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, parce qu'ils craignaient pour leur vie, ils vivent à Tel Aviv ou à Netanya. Tous, à Paris, comme à 4600 km de là, tous ont vécu une nuit d'angoisse, suspendus à leur téléphone, rivés aux infos et notamment accrochés à CNews, puisque je sais qu'ici et là-bas, notre chaîne est regardée. Nous sommes tous israéliens. Voici ce que j'ai envie de dire ce matin à ces enfants de France, qu'ils soient nés à Sarcelles ou qu'ils aient immigré près des plages d'Eliat. Nous sommes tous israéliens, ne signifie pas que nous soyons tous Netanyahou, bien sûr. Il n'y a pas de message purement politique dans ce que je dis là, simplement un signe de compassion. Nous sommes tous israéliens pour rappeler qu'Israël est la seule démocratie dans cette région du monde et chacun peut y vivre comme il l'entend. Comment ne pas évoquer aussi les Iraniens de France qui ont fui depuis des années le régime des Mollahs et qui n'espèrent qu'une chose, que la République islamique tombe après 46 années de dictature. Comment ne pas penser aux Iraniens, aux Iraniennes, prisonniers, prisonnières d'une théocratie moyenâgeuse. Nous évoquerons bien sûr les conséquences politiques, diplomatiques, militaires de la guerre qui fait rage entre Israël et l'Iran. Mais nos premières pensées ce matin étaient pour tous ceux qui ont traversé la nuit, terrorisés d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il est 9h01, Chana Lousteau.
9h, 9h30, l'heure des pros sur CNews et Europe 1.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur des civils. C'est l'avertissement lancé par Israël ce matin après une nouvelle salve de missiles iraniens ces dernières heures. L'Iran affirme avoir frappé l'État hébreu avec succès et promet des frappes plus dévastatrices contre les cibles vitales. Les secours israéliens font état d'au moins 5 morts et 92 blessés cette nuit. L'Iran a également annoncé avoir pendu un agent du Mossad israélien arrêté en 2023. Aujourd'hui s'ouvre le procès du chauffard qui avait mortellement fauché la jeune gendarme Mélanie Lemay. Les faits remontent à 2020. L'accusé tentait d'échapper à un contrôle. Il roulait à plus de 130 km/h sans permis, sous l'emprise de stupéfiants et avec 165 grammes de cocaïne dans son véhicule. D'abord incarcéré, il sera finalement placé sous bracelet électronique en 2023. Il sera jugé devant les assises d'Agen. Et puis aujourd'hui sonne le début des épreuves écrites du baccalauréat. Depuis une heure, plus de 700 000 lycéens planchent sur leur épreuve de philosophie. Les élèves ont jusqu'à midi pour rendre leur copie et Elisabeth Borne a tenu à leur souhaiter bonne chance dans un lycée parisien. Écoutez.
Évidemment, je veux à nouveau leur dire bon courage et puis leur souhaiter pleine réussite. Je voudrais aussi en profiter pour remercier tous les professeurs qui les ont accompagnés tout au long de leur parcours.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci Chana, et je pense que tous nous avons un pincement au cœur lorsque le bac philo arrive, parce que c'est un miroir de toutes ces années qui sont passées, 40 ans, 50 ans parfois, que nous avons eu le bac, pour ceux qui l'ont eu, autour de cette table. Elisabeth Lévy, et là vous l'avez eu avec mention très bien, j'imagine.
Même pas.
Georges Fenech.
Oui, c'était mon... Oui.
Vous l'avez eu.
J'avais un bac philo, oui.
C'est vrai, en plus, il y avait deux bacs à votre époque.
Vous avez passé deux bacs, vous.
Non,
je suis né après la guerre. Hein.
Oui, il y avait les deux bacs.
Le bac d'eau chaude et le bac d'eau froide.
Bon, d'accord. Olivier Delagarde, Nathan Dever. Bon,
L'histoire est-elle notre mémoire collective? Vous voyez, je me souviens encore du sujet du bac de philo.
Mais on s'en souvient, bien sûr. Nathan Dever est là. Nathan Dever, vous avez... agrégé, normalien. Donc vous, le bac, vous souvenez de votre note en philo?
C'est le sujet, c'était l'artiste est-il maître de son œuvre? C'est un beau sujet.
Ouais. Vous avez eu combien?
J'avais eu 20.
Non.
Oui, mais c'est
20 sur 20.
Oui, mais c'est une époque où on peut mettre des 20.
Il y a eu un temps où la note maximale
c'était des 16.
Allez, Vincent Hervouette est là également. Vincent, bon, l'actuel. Voilà. S'il vous plaît, de la discipline, monsieur de Lagarde. Vincent Hervouette, merci d'être avec nous. Évidemment, peur sur le monde. Notre premier message, on a voulu vraiment les donner aux Français juifs. Et on est avec d'ailleurs Ben Rosenbaum. Avant de parler de l'actualité, effectivement, diplomatique, politique, militaire, je vous ai écouté hier soir. Bonjour, monsieur Rosenbaum. Bon. Je vous ai écouté hier soir. Et j'étais évidemment très touché, et on a voulu commencer l'émission avec vous, parce que vous êtes à Tel Aviv. Et ce que vous avez dit de plus fort, me semble-t-il, hier, c'est que vous avez dit, pour la première fois, j'ai peur. C'est-à-dire que nous sommes habitués, vous êtes habitués, les Français juifs, les Israéliens sont habitués, mais ils ont quand même le sentiment là qu'il y a autre chose qui se passe. Alors comment allez-vous d'abord, et comment avez-vous passé la nuit ensuite ?
Bonsoir, merci de me donner la parole. Écoutez, comment on va ? On a toujours beaucoup d'espoir, parce que s'il y a quelque chose de particulier avec Israël en général, c'est que malgré les horreurs qui nous arrivent, si on n'est pas attaché à l'espoir, on ne tient pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on attend avec impatience la fin de tout ça, même si on ne la voit pas arriver tout de suite. Comment vous dire, c'est terrible parce que d'un côté on sait qu'on va s'en sortir. La question est de savoir à quel prix. Le prix on l'a déjà payé plusieurs fois et ça a pas commencé le 7 octobre. Ça fait des décennies, bien avant que moi j'arrive sur place et bien avant que des générations de juifs français arrivent sur place également pour apporter leur pierre à l'édifice. Mais encore une fois, voilà, c'est des nuits à avoir peur. C'est savoir quel sera le prix qu'on aura à payer, quand on va aller dormir, quoi. Voilà, encore une fois, il y a eu une alarme cette nuit. On sait que voilà, il y a encore eu des morts. Donc c'est catastrophique, quoi.
Bon, je salue tous ceux qui m'envoient des textos depuis 9h02. Isidore Aragonès, qui a été président du CRIF à Marseille et qui me dit. Vraiment, vous nous faites chaud au cœur. Jeanne Assouli, qui est la fille d'Avi Assouli, qui nous écoute. Et on pense chaque jour à Avi, bien sûr, qui est décédé il y a quelques jours. Alexandre Arcadi, qui nous écoute. Robert Sebag, qui nous écoute également, qui était venu ici pendant le Covid. Et je vois vraiment combien les Français juifs sont touchés, bien évidemment, comme nous tous, par ce qui se passe. Mais, Monsieur Rosenbaum, votre témoignage nous intéresse parce que vous appartenez donc à cette génération, si j'ai bien compris, qui a fait son alia. C'est-à-dire qui a quitté la France précisément parce que vous vous sentiez pas forcément en sécurité en France. Et vous êtes en Israël aujourd'hui. Et quelqu'un me disait ce week-end, je me sens plus en sécurité sous les bombes à Tel Aviv que parfois à Paris, à Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis.
Absolument, c'est ça. On a eu cette réflexion il n'y a pas longtemps avec des amis français, juifs aussi, qui ont fait leur alia depuis des années. Et on s'était dit que on adorerait avoir des vacances, mais quitter ce pays dans un moment comme celui-là, c'est comme si on s'arrachait un petit peu, le cœur. Moi, quand je suis parti quelques mois après l'affaire Ilan Halimi, qui a été un chamboulement dans ma vie personnelle, dans la vie de ma famille. On savait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé à ce moment-là. Et le problème, malheureusement, c'est que, on est très attaché à la France. On est attaché viscéralement à la France, malgré le fait qu'on l'ait quittée. Et plus le temps a passé depuis ces 19-20 dernières années, et plus malheureusement, les faits nous ont donné raison. C'est-à-dire que les Juifs de moins en moins se sentent en sécurité. Les gens, quand ils veulent commander, on en est au stade en France où les gens, quand ils veulent commander à manger, ils doivent changer leur nom de famille sur les applications parce qu'ils ont peur que la connotation juive de leur nom de famille puisse leur porter préjudice. On en est là, ça rappelle des heures sombres de l'histoire qui sont, enfin, c'est absolument affreux et enfin, ça fait mal au cœur d'un côté. D'un autre côté, on sait que On a du soutien, mais malheureusement, je pense que ce soutien s'estompe et ça fait très peur pour la suite.
Ben Rosenblum est avec nous ce matin, si vous nous rejoignez un instant, et notamment je pense aux auditeurs d'Europe 1. Il raconte cette nuit qu'il a passée, il raconte aussi l'alia qu'il a fait. Vous avez de la famille en France, j'imagine? Il y a peut-être vos parents, vos cousins qui sont en France et qui sont en train de vous écouter? Ou est-ce que tout le monde est en Israël, Ben?
J'ai de la famille en... niveau famille, j'ai plus trop de famille qui est en France. Beaucoup ont fait l'Alia déjà. J'ai des amis très très proches qui sont encore en France. Un petit peu de famille en Belgique, mais la famille en Belgique aussi a un petit peu du mal à tenir. Et voilà. Et sinon, pour le reste, on est tous ici.
Merci. On voulait vraiment commencer cette émission avec vous. Merci et à travers vous. C'est le témoignage à tous les Français juifs et puis les juifs du monde entier, bien sûr, que nous adressons à ce moment de l'émission. Merci beaucoup. Merci. Et vraiment, on viendra vers vous, j'allais dire tous les jours, en espérant ne pas venir vers vous précisément tous les jours, parce que si on ne vient pas, c'est que la situation s'arrange. Vincent Hervouet, merci vraiment d'être avec nous. On voit le sujet d'Hélène Charpice qui s'est passé cette nuit, et vous me décryptez les dernières informations.
Toute une nuit, rythmée par les alarmes. L'Iran continue sa riposte et les Israéliens se mettent à l'abri. Une nouvelle salve de missiles iraniens a plu sur l'État hébreu sans que le dôme de fer ne puisse tous les neutraliser. Et l'armée israélienne tente d'intercepter le plus de drones iraniens possible.
L'Iran a envoyé plus de 100 drones vers Israël. Nous les avons interceptés.
À Jérusalem, Tel Aviv ou encore Haïfa, l'attaque de missiles a provoqué des incendies sans précédent, coinçant des personnes sous les décombres et faisant craindre une forte augmentation des bilans humains. Ces frappes interviennent en réponse de bombardements israéliens sur des sites de missiles en Iran et Israël a affirmé avoir détruit un important site d'uranium dans le centre du pays. Le président américain Donald Trump a appelé Israël et l'Iran à trouver un accord, tandis qu'Emmanuel Macron a affirmé que la France n'a participé à aucune opération défensive d'Israël, alors que le G7 va bientôt commencer au Canada.
Peur sur le monde, Vincent Hervouet.
Oui, la peur, mais vous voyez, vous parliez à juste titre de l'angoisse qui peut saisir les Israéliens qui sont aujourd'hui sous les bombes. Moi, j'ai aussi une pensée pour les 8 Européens qui croupissent en plein cœur de Téhéran à la prison d'Evine, dont les 2 Français, Jacques Paris et comment s'appelait-elle, Cécile Kohler, oui, qui sont depuis maintenant plus de 3 ans aux secrets, aux oubliettes, et ils le sont, et je pense à eux, parce qu'ils sont emprisonnés parce qu'ils sont français, et uniquement parce qu'ils sont français. Ce sont nos otages. Il n'y a pas que Boualem Sansal. Ces 2 Français-là ont été jetés au cachot.
Qu'est-ce qu'ils faisaient,
Ornier? Du tourisme. Ils ont été kidnappés au moment où ils passaient la douane pour rentrer à Paris. Et ils n'ont pas encore été jugés, d'ailleurs, et ils sont... Et si j'en parle, c'est parce qu'en janvier dernier, un Français a été relâché, après de longues et ténébreuses négociations, et il a expliqué qu'ils étaient, l'un et l'autre, absolument épuisés moralement. Et imaginez ce que ça doit être le climat à l'intérieur.
J'entends bien et je comprends ce que vous dites, mais forcément ce matin, l'actualité, oui, c'est Israël.
Ben, l'actualité, c'est que le conflit, au bout de 3 jours... donne l'impression non pas de piétiner, mais on sent qu'il n'y a pas de contagion régionale. On ne touche pas aux champs d'hydrocarbures de Saoudiens. Les Américains ne sont pas attaqués. Personne ne vient au secours de l'Iran. Y a pas, le Hezbollah n'a pas tiré une seule roquette en défense de son maître. Il y a donc ça se joue uniquement entre Israéliens et Iraniens. Il y a on sent un grand soulagement dans le monde arabe et en même temps l'angoisse de ce qui va se passer. C'est parti pour durer un certain temps. Les résultats pour l'instant sont pas vraiment au rendez-vous. C'est-à-dire que on comprend que l'Israël voulait décapiter le régime, la République islamique. Trump prétend avoir mis un veto à l'exécution du guide suprême qui a été sorti là, de Téhéran et qui a été envoyé, paraît-il, dans l'est du pays, dans un bunker.
Pourquoi ?
Pourquoi est-ce que le président...
Pourquoi Trump ?
Ben parce que, visiblement, il ne veut pas d'un changement de régime radical.
Et pourquoi ?
Ben parce que le chaos qui suivrait serait difficile à endiguer, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui viendra après. Pour l'instant, les Iraniens, aussi détestables qu'ils soient, le régime tel qu'il est, ce sont des gens avec qui on peut négocier. Ce n'est pas la Syrie.
Attendez.
Je suis pas en train de les bénir, je suis pas en train de les excuser, je suis pas en train de vous dire que...
Non, mais c'est vous décrypter, mais attendez, c'est pas
une nuisance redoutable depuis 45 ans. Ils ont répandu la révolution islamique à travers tout le monde arabe. C'est une catastrophe, L'Ayatollah Khomeini était une catastrophe pour l'humanité. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que vous avez des gens qui sont à peu près rationnels avec lesquels vous pouvez négocier. Ce qu'on espère, c'est qu'ils reviennent à la table des négociations. Ce qu'espèrent les Américains, c'est qu'ils reviennent à la table des négociations. Après avoir sauvé la face. Après avoir donné l'impression de réagir en bombardant Israël.
Je vous propose d'écouter deux, trois réactions, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est votre décryptage. Écoutez ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Benjamin Netanyahou, est-ce qu'on peut l'écouter ? Benjamin Netanyahou sur le régime iranien qui est faible, dit-il, et il s'est exprimé ces dernières heures, mais est-ce que nous l'avons ou pas, chère Marine Lançon, qui est en régie avec nous ? Benjamin Netanyahou, allons-y.
Le régime iranien est très faible. Je pense qu'il ne lui reste que deux choses. Son projet de se doter de bombes atomiques et de missiles balistiques. C'est essentiellement ce dont dispose l'Iran. Ils n'ont certainement pas le peuple derrière eux. 80% de la population chasserait ces voyous théologiques. Ils les assassinent, les oppriment, et depuis 46 ans, ils aspirent à la liberté. Nous ne pouvons pas laisser le régime le plus dangereux du monde posséder les armes les plus dangereuses du monde. Nous nous protégeons, mais nous protégeons aussi beaucoup d'autres personnes. Les renseignements que nous avons obtenus et partagés avec les États-Unis étaient absolument clairs. Ils travaillaient sur un plan secret visant à militariser l'uranium. Ils avançaient très vite pour mettre au point un dispositif d'essai, voire un premier dispositif opérationnel, en quelques mois ou plus probablement en moins d'un an. Ce sont ces renseignements que nous avons partagés avec les États-Unis.
Régime iranien faible ?
Oui, mais le régime est détesté, il est méprisé, il est craint par son opinion, il est faible dans le sens où les coups obus qui ont été portés par les Israéliens sont extraordinaires. Hein. C'est incroyable ce à quoi on a assisté là, depuis vendredi. Vous avez eu l'élimination quand même de tout l'état-major, de l'armée, des canons de la Révolution, du renseignement. C'est invraisemblable. Ils sont allés les chercher à domicile, pratiquement, à la pochette à escargot. Mais la question, c'est quel est le véritable but de guerre ?
Ah ben justement,
si c'est neutraliser le mécano nucléaire, ils ne l'ont pas fait.
Alors écoutez ce qu'a dit le colonel Rafovitz sur le but de cette campagne militaire.
Un des buts de la campagne contre l'armée iranienne, contre le programme secret nucléaire iranien, c'est également la destruction, en tout cas la réduction... des missiles balistiques de longue portée, qui, même s'il n'y a pas le programme nucléaire, sont une capacité de destruction dramatique. Nous sommes aujourd'hui capables de contrôler les airs dans l'ouest iranien, jusque dans la capitale, Téhéran, et même bien au-delà, puisqu'aujourd'hui, on a frappé des cibles à 2300 km des frontières d'Israël, du jamais vu dans l'histoire d'Israël depuis que l'État d'Israël a été reconnu par les Nations Unies comme un État indépendant. Et cette capacité aujourd'hui fait que nous frappons des frappes très précises, très ciblées, dans des centaines d'endroits différents en Iran, pour frapper le programme militaire, nucléaire et également des éléments balistiques.
Vous dites ben non ?
Ben non, parce que le colonel Rafovitz fait son office, mais si vous voulez, la force de dissuasion qu'avaient les Iraniens, c'était le Hezbollah, d'accord ? On savait que si les Israéliens s'attaquaient à Téhéran, immédiatement le pays serait noyé sous une masse invraisemblable de missiles, le Hezbollah n'en avait plus de 100 000. Là, c'est terminé, les Israéliens ont vraiment cassé les dents du Hezbollah. Un jour, il y a un homme que vous connaissez qui m'a fait cette réflexion hier, qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, est-ce qu'on se mesure les conséquences incroyables de ce qu'a fait Sinwar, le chef du Hamas, qui a liquidé donc par le Hamas, le Hezbollah, le régime d'Hafez al-Assad, et maintenant c'est l'Iran qui s'apprête, le régime iranien qui va sans doute tomber. Tout ça par le fait d'un homme. d'un terroriste, si noir, c'est sans précédent dans l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que là, ils nous expliquent qu'ils sont en train de bombarder, de viser les rampes de lancement de missiles balistiques, mais le cœur du problème, c'est le nucléaire. C'est ce qui est à 70 mètres sous le granit, à Natanz, à Fordow, qui n'a pas été touché, paraît-il. Bon.
Je ne sais pas si les uns et les autres, Elisabeth Lévy, je vois...
Juste sur cet aspect, peut-être que le nucléaire, à terme, c'est un problème, même si on n'est pas du tout sûr que l'Iran s'en servirait. En revanche, les missiles balistiques, c'est tous les jours. Donc, oui, c'est quand même un problème. Et juste rajouter un mot à votre magnifique édito, il n'y a pas que de la peur, elle existe. Il y a aussi... Je pense chez beaucoup d'Israéliens et beaucoup de Juifs, de la fierté.
Je suis d'accord avec vous parce que j'ai reçu beaucoup de messages hier, notamment d'un ami qui est en Israël, qui dit « je suis là où je dois être ». Et il y avait de l'inquiétude, bien sûr, pour lui, pour sa famille, mais il dit « je suis là où je dois être ». Nathan Devers.
Deux petites remarques. La première, je crois que c'est un moment de vérité. Parce que depuis le 7 octobre, en fait, beaucoup de journalistes disent qu'on est dans un nouvel épisode du conflit israélo-palestinien. C'est pas tout à fait vrai. Ce conflit, jusqu'aux années 70, en France, on l'appelait pas ainsi, on l'appelait le conflit israélo-arabe. Et je crois que depuis le 7 octobre, on est rentré dans un troisième paradigme, qui est le conflit israélo-iranien. Et ça devait se jouer à un moment à Téhéran, puisque c'était des attaques par proxy interposés. La deuxième remarque que je ferai, c'est que là, on voit quand même que aussi bien le Hezbollah que Téhéran, ses réussites, ses prouesses, elles sont dues au fait que l'armée israélienne a agi après, si vous voulez, les services de renseignement. Et qu'il y a un travail qui a été fait sur 10 ans, qui est absolument incroyable, d'infiltration de l'État iranien dans ses plus hautes sphères, etc. La troisième chose, c'est une question que je me pose. Évidemment, on le sait, le peuple iranien a été héroïque. C'est un très grand peuple. On ne salue pas assez la bravoure, le courage, le sacrifice des femmes iraniennes qui, depuis des années, ont essayé de braver ce régime. Est-ce qu'ils vont se soulever ? Ou est-ce que ça va susciter, comme quand il y avait eu la guerre Irak-Iran, un sentiment de repli nationaliste avec une détestation d'Israël qui l'emportera sur la détestation de l'Égypte ?
Moi, je voudrais ajouter à ce qui vient d'être dit, mon interrogation par rapport à la position de la France dans ce qui est en train de se passer. Je trouve qu'on est un peu sur le retrait. Certes, le président n'a pas condamné l'intervention israélienne, mais que faisons-nous pour nos alliés et amis israéliens ? Est-ce que nous apportons une aide militaire, Elisabeth, est-ce que nous apportons ou est-ce que nous promettons une aide comme on l'a fait pour l'Ukraine ? Je trouve qu'on a une position très en retrait et qu'Israël est un peu isolé.
C'est ça, ouais. Deux choses.
On n'a pas une position en retrait. Les affaires étrangères ne sont pas en retrait, ils sont en colère.
Oui,
on vient de les frustrer de la grande réunion, du grand sommet qui devait se tenir la semaine prochaine à l'ONU pour décider du sort de Gaza avec les Saoudiens. Donc ça s'est passé à la trappe, c'est quand même très dommage. On a autre chose à faire.
Pardonnez-moi, mais les gens comprennent pas ce que vous dites.
Il y avait un rendez-vous fixé par le président de la République avec
le prince héritier d'Arabie
Saoudite pour essayer de déterminer
et de reconnaître la Palestine.
Et bien tout ça a volé en éclats, c'est plus d'actualité.
Et bien faut le dire comme vous le dites.
On est navré, on est frustré, on est déçu à l'Élysée, on s'occupe du Groenland.
J'entends bien. J'ai déjà dit ici que je suis le accoucheur de Vincent Herbouët. C'est quand même très c'est un drôle de métier.
C'est très douloureux.
Bon, vous avez entendu. Je suis obsédé par les téléspectateurs, ce qui est bien normal. Oui. Ils n'ont pas votre niveau de décryptage, de connaissances, de diplomatie, etc. Donc ils entendent ces informations parfois. Ils se disent blague ou pas.
Vincent n'a pas répondu.
Et vous vous souvenez ce que Étienne Mouchat disait, j'ai toujours pas de second degré.
Oui.
Bon, Thomas, s'il vous plaît, vous avez entendu le...
J'ai pas entendu la réponse, mon frère.
Oui, vous l'entendrez après, parce que vous avez pas entendu manifestement le carillon. Désolé, je vous dis, il est 9h23. Qui est là ?
C'est pas Thomas. Ah, c'est Michel Field. Bonjour les amis.
Michel Field, mais Michel Field du service public.
Michel Field du service public qui est invité par Thomas. Moi, je réponds à Michel Field.
Michel Field, le cercle de minuit. Michel Field, merveilleux. Vous êtes vraiment une personne qu'on aime beaucoup du service public. Donc
visiblement à vous écouter. Je ne sais pas si vous me rendez service en le disant, mais je prends. En tout cas, c'est retour vers le futur pour parce qu'on a partagé des bureaux à LCI.
Exactement, oui.
Et Vincent Hervouet, on a travaillé ensemble plusieurs années, donc voilà, je reconnais d'anciens camarades et confrères.
Vous êtes tellement bon, je vous vois plus à l'antenne.
Il fait son retour ce soir.
De temps en temps, je fais de l'antenne. Je dirige la culture de l'autre côté des caméras. Et puis là, on lance une émission sur France 3 de débat citoyen en province, dans les régions. Et avec voilà, Thomas m'a fait l'amitié de m'inviter.
De gauche engagée. C'est
vous allez voir.
Isabelle, c'est ce soir.
Ah non, c'est assez différent. C'est assez différent.
Une sorte d'ouverture.
C'est autre chose, mais un jour, on parlera de c'est ce soir. Je vous trouve très injuste avec l'équipe de Carrie Brissouli.
Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir, cher Michel, parce que moi, j'ai aussi travaillé avec vous et je me souviens des réunions que nous avions ensemble. C'était LCI, jadis.
Que des bons souvenirs.
Voilà, que des très bons souvenirs. Et Michel est évidemment, vous avez beaucoup de qualités, forcément.
Bon, cette page d'anciens combattants étant terminée, je vous rends l'antenne, cher Pascal.
À vous, Cognac G. À tout à l'heure, Pascal.
9h30, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Thomas Hill.
Et nous, on arrive donc pour Culture Média avec un très beau programme ce matin. Vous l'avez entendu, Michel Field qui fait son retour à la télé ce soir avec Fred Testo, Jonathan Lambert qui anime ensemble un podcast et puis la chanteuse écossaise Amy MacDonald va chanter en live dans ce studio. À tout de suite sur Europe 1.
9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà ! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Je vois la détresse de mon mari. Il était pâle, il était pas bien.
Quand Marine a été cambriolée, Amaury, son agent mutuel de Poitiers, était là pour elle.
Et du coup, j'appelle Amaury et mon mari me regarde et je lui dis « Mais t'inquiète pas, il arrive. Ah, mais il arrive là maintenant ?» Oui, je lui dis « Il arrive maintenant. »
Oui, on est présent, on se déplace, on vient, on est l'assureur de proximité, on n'est pas une plateforme téléphonique.
Et il m'a accompagné du début jusqu'à la fin, donc ça vaut de l'or.
Mutuelle de Poitiers Assurance, votre assureur vous connaît. Et pour vous, ça change tout.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
16 millions, c'est l'équivalent de la population de Paris, Bordeaux et Lyon réunis. C'est aussi le nombre de personnes dans le monde qui ont choisi Renault Clio depuis 1990. Et ce nombre continue d'augmenter, puisque Clio est la voiture la plus vendue en France en 2024. Renault Clio Génération est en édition limitée dès 16 900 euros. Portes ouvertes du 12 au 16 juin.
Source Renault, immatriculation mondiale de 1990 à 2024. Source 3 Adata, janvier 2025. Clio Génération SCE, 65 heures options. Offre à particulier du 1er au 30 juin selon stock disponible. Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1.
Et vous êtes bien sur Europe 1 ce lundi matin ensoleillé sur toute la France. Eh bien, sachez que juste après les infos de 9h30, ce lundi se poursuit vraiment très bien, puisque c'est Thomas Hill qui vous accompagne avec toute l'équipe de Culture Média.
Eh oui.
À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour, je suis Laurence de Carglass. On fait quoi en cas d'impact sur son pare-brise? On appelle Carglass au 3044. Et si on a deux impacts, c'est toujours Carglass au 3044. C'est simple. Une urgence sur votre pare-brise? Allô Carglass au 3044. Et pour prendre rendez-vous rapidement chez Carglass, c'est le 3044. Et l'appel est gratuit.
Carglass répare, Carglass remplace.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir:
je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim.
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Leclerc, bonjour.
Allô, oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis inquiet.
Ah bon, mais qu'est-ce qui vous arrive?
Bah voilà, j'adore les yaourts Père de lait, alors je vous en ai pris 2 packs. Mais là, j'en vois 3 dans mon frigo. Est-ce que c'est normal?
Oui, oui, c'est normal. C'est Leclerc. Car du 17 au 28 juin, pour l'achat de 2 packs de 4 pots de perles de lait vanille, le 3e est offert.
Ah, vous m'avez rassuré.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Lait Origine France, modalité magasin et drive participant sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
Bouleversé par le décès de mon père, ça a été un soulagement de découvrir qu'il avait pris un contrat de prévoyance obsèques chez Roc Éclair. Tout était financé, organisé. Roc Éclair s'est arrangé pour qu'on ait aucun frais avancé. Ça nous a permis de réaliser la cérémonie qu'il aurait souhaité.
En ce moment, 2 mois offerts pour tout contrat de prévoyance Roc Éclair conclu avant le 30 juin 2025.
Roc Éclair, là pour vous.
Hors prime périodique sur un an, distribué par Prévoyance FI. Conditions détaillées en agence et sur roqueclair.com.
Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
Vous avez un nouveau message.
Allô patron, ils nous ont encore pris de court chez Lidl. En ce moment, le kilo de courgettes est à 1,39€ et même à 97 centimes avec Lidl+. On peut dire qu'elles en jettent, ces courgettes. Et pour nous, c'est ratatouille.
97 centimes le kilo de courgettes chez Lidl avec Lidl+. Là, je suis vert. On est mal.
Lidl est vraiment le moins cher et vous le prouve sur lidlestmoinscher.fr. Catégorie 1, Origine France. Offre valable jusqu'au 18 juin. Plus d'informations sur lidl.fr.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Carrefour. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la 3e est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus.
Europe 1, le journal permanent.
9h30 sur Europe 1, juste avant Culture Média, le journal permanent avec Véronique Verdun. Bonjour Véronique.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. Les habitants de Téhéran paieront le prix des frappes iraniennes sur des civils israéliens. C'est l'avertissement du ministre de la Défense israélien. Cette nuit, plusieurs grandes villes d'Israël ont été visées. Il y a au moins 8 morts, 92 blessés. De son côté, Israël a touché des centres de commandement des gardiens de la Révolution. Et Téhéran annonce avoir pendu un agent du Mossad, un homme qui avait été arrêté en 2023. Le conflit entre Israël et l'Iran, les dirigeants du G7 sont réunis jusqu'à demain au Canada. Avant son arrivée, le président américain Donald Trump a appelé les deux pays à trouver un accord. À la cour d'assises d'Agen, le procès du chauffard qui avait tué une gendarme lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne en 2020. L'automobiliste roulait à plus de 130 km/h. Il conduisait sans permis, sous l'emprise de stupéfiants. Près de Toulouse, un tournoi de foot a tourné à la bagarre générale samedi. Une scène totalement ahurissante sous le regard des jeunes joueurs âgés de 10 ans. Des parents, des spectateurs ont envahi le terrain avant d'en venir aux mains. Bilan, un parent de joueurs grièvement blessé. Un éducateur a été roué de coups. C'est le début d'une semaine intense pour les candidats au bac. Le message de la ministre de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, était dans un lycée parisien avec ce matin l'épreuve de philo. Pour plus de 530 000 élèves de terminale l'année dernière, le taux de réussite était de 91,2%. Vous écoutez Europe 1, il est 9h32, c'est Culture Média, Thomas Hill.
Merci beaucoup Véronique et prochain point sur l'actu à 10h sur Europe 1.
Europe 1,
9h30, 11h, Culture Média.
Thomas Hill.
Bonjour à tous et bienvenue dans Culture Média. On est reparti pour une semaine de toute beauté avec les trois fantastiques, Anissa Dadi, Jean-Luc Lemoyne et Julien Pichenet.
Bonjour Thomas.
Alors très belle semaine devant nous avec les visites notamment de Raphaël Quenard, de Baptiste Le Caplin, Pascal Obispo, Amir, mais aussi parce que nous entrons dans la semaine spéciale Grande Famille d'Europe 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que les membres de la famille vont venir se balader d'une émission à l'autre. On va accueillir ici chouette, des animateurs d'Europe 1.
Ils auront des cadeaux.
Et je crois pas qu'il y ait des cadeaux prévus.
J'ai pas vu de cadeaux prévus.
Mais il est possible qu'on aille se balader, en tout cas nous aussi.
En fait, c'est une fête des voisins géantes, quoi. Radiophonique. Voilà.
Absolument.
On peut y aller à l'improviste comme ça, débarquer.
Vous pouvez débarquer partout. Ah, ça c'est assez génial.
C'est bon à savoir ça.
Ce soir, vous comptez débarquer d'ailleurs.
Je vais débarquer, je vais voir. Peut-être chez Pierre de Villeneuve, par exemple.
C'est possible.
À 20h45, par exemple.
tout ça n'est pas du tout prévu. Et puis on accueille des auditeurs sélectionnés par le club européen aujourd'hui en régie. Je salue deux fidèles. Nathalie, qui nous écoute depuis les années 90, figurez-vous. Pendant ses études, elle a même choisi pour son cours d'histoire des médias d'aborder l'histoire de la radio bleue.
Wow.
Imaginez si ça, c'est pas une preuve d'amour. Et alors Thomas, qui nous écoute depuis qu'il a 15 ans. Salut Thomas, il a passé les 40 ans, donc je crois qu'on peut parler d'un auditeur fidèle.
Ah oui. Hein.
Ouais. Il est validé, il a sa carte de fidélité. Bienvenue à tous les deux. Et alors, je peux vous dire que vous tombez bien aujourd'hui parce qu'on a un casting 5 étoiles. D'abord pour les médias. Vous l'avez écouté, Nathalie et Thomas, forcément, sur Europe 1 pendant des années. Michel Field est avec nous. Bonjour Michel.
Bonjour à tous.
Et merci d'être là. Vous dirigez donc la culture et les spectacles vivants à France Télé. Mais alors ce soir, vous faites votre retour devant les caméras avec une nouvelle émission baptisée Sans Filtre qui veut donner la parole à tous autour d'un grand thème de société. Premier sujet ce soir à Montargis, le narcotrafic. On va en parler. Et puis place ensuite au journal des médias. Quel est le menu aujourd'hui, Julien ?
On parlera notamment de la première de Laurent Ruquier sur T18. Ah oui. Et de la première ce soir sur TF1 d'un nouveau feuilleton Tout pour la lumière. Ça commence aujourd'hui. Ah oui.
Et puis ensuite, deux comédiens qu'on adore nous rejoindront, Fred Testo et Jonathan Lambert.
Oula.
Ils font ensemble un podcast, figurez-vous, qui s'appelle Tenez, goûtez, c'est délicieux, mais ça n'a absolument rien à voir avec la cuisine.
Non.
Donc on verra
beaucoup
ça tout
rigolade
à l'heure. Et puis alors, cerise sur le gâteau, la cherry on the cake, une star internationale viendra nous interpréter l'un de ses tubes en live. Ah, on l'a pas le tube en live, c'est dommage, il devait partir au moment où je lance le bras en avant. Eh bien, je vais vous chanter. Sera dans ce studio tout à l'heure pour un petit concert privé, un concert composé d'une chanson, donc c'est vraiment un tout petit concert, mais c'est absolument génial de l'avoir ici. Merci d'être avec nous chaque matin sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à
11h. 9h30, 11h sur Europe 1.
Culture Média.
Thomas Hill.
Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoine. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Michel Field pour sa nouvelle émission Sans Filtre.
Sans filtre, oui. Deux mots qui ne seront jamais prononcés par une influenceuse Instagram. Hein. Bon, on va pas se mentir, Michel. J'imagine que dans vos projets futurs, vous n'envisagez pas de devenir influenceuse beauté sur les réseaux.
C'est pas prévu, je crois.
Ça se discute, d'accord. J'aime beaucoup Michel Field. Vraiment, j'aime beaucoup Michel parce que tranquille, cool, plein d'esprit. Il est rentré dans mon cœur lors de cette joute verbale mythique avec le président Chirac.
Réfléchissez deux minutes. C'est pas excessif.
Merci.
Vous me dites, au fond,
vous
n'avez
pas. Hein.
Non.
Parce que non. Minutes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Oui.
Là, ça passe ou ça casse. Ou tu gagnes le respect du président, ou tu gagnes une visite à ce qu'on appelait alors la NPE. Michel Field, prof de philo, journaliste, écrivain, animateur télé et radio, directeur de la culture de France Télévisions. Impossible de le résumer en trois mots, mais j'essaie quand même. Si je vous dis télévision, écriture, pipe, est-ce que c'est bien résumé ?
Pas mal.
On est très content, Michel, car vous refaites enfin de l'antenne avec une nouvelle émission sur France 3, Thomas l'a dit. Une émission dont vous avez failli parler la semaine dernière sur France Info. On est passé à ça.
Bon, on n'a plus le temps, hélas, de parler de votre retour à l'antenne, hein, Michel, parce que Michel Field va revenir avec son
filtre. C'est pas non plus un événement mondial, mais ça me fait plaisir.
Voilà, Michel le dit lui-même, c'est pas un événement mondial, cette nouvelle émission. Eh bien, sachez qu'à Culture Média, nous sommes premiers sur les non-événements mondiaux. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir pour Sans Filtre.
Il y a un invité qui vous a fait défection, c'est ça ?
Mais pas du tout.
Pas du tout.
Non, Sans Filtre, une émission où vous vous rendez dans des bars ou des brasseries partout en France pour organiser des débats. Sachez quand même que Julien Pichet avait déposé le même concept, sauf pour la partie débat. Il proposait juste d'aller dans des bars ou des brasseries. Bon, je précise quand même que si vous n'avez pas eu le temps de parler de votre programme, Céline Bait d'Harcourt, c'est aussi parce que vous aviez été invité le jour de la disparition de Nicole Croisy et Philippe Labro.
Ah oui.
Donc il y a eu un petit bouleversement de conducteur. Philippe Labro, avec qui vous avez failli travailler ?
Il m'avait fait des propositions pour que je le rejoigne à RTL, mais j'avais préféré le concurrent direct qui était Europe 1.
Et il a préféré Europe 1 !
Eh oui.
Suite à cette déclaration, le service com de la station nous a demandé de vous dire que votre nouvelle émission est certainement ce qui s'est fait de mieux dans le PAF depuis une trentaine d'années. Voilà. Vous êtes ici chez vous, Michel. On va vous dire que des choses gentilles. Il n'y a que Julien qui ne peut pas vous saquer. Voilà. Je vous préviens.
Non, c'est pas vrai, ça.
Si, je dis c'est la vérité. Parce que vous avez déclaré ça concernant les audiences des chaînes dont vous vous occupez, notamment France 4.
on va être mesuré quotidiennement. Et moi, je vais essayer de donner des cours aussi de lecture des audiences à mon camarade journaliste des médias.
Ça, Julien, il l'a pris comme un coup de poing dans la glotte.
C'est de ma faute.
C'est pas passé. Je l'ai retrouvé sous son bureau tout à l'heure. Il était en position fœtale.
Il était pas bien.
En train de relire les audiences des Molières. Il marmonnait, mais je peux quand même pas dire que c'est un succès. Mais ça, c'est le problème de Michel. Quand tu lui tends un micro, il dit ce qui lui passe par la tête, sans se soucier des conséquences. Là, on lui demandait la qualité principale de la chaîne Culture Box qu'il venait de lancer.
L'impertinence et le côté je me prends pas trop au sérieux. Ça fait du bien à France Télévisions.
Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Il y a des gens qui se prendraient au sérieux à France Télé?
Attention.
Tout ce que vous direz pourra se retourner contre nous tous. En tant que responsable de la culture, Michel répond à toutes les interviews et donne toujours de précieux conseils. Même si on a souvent un doute sur le fait qu'il se fout un petit peu de nous.
L'endroit dans lequel vous ne pouvez pas lire. Alors, il n'y a aucun endroit où je ne peux pas lire. Je peux lire aux chiottes. Il n'y a peut-être que quand je conduis une voiture que je préfère ne pas lire.
Merci, Michel. Grâce à vous, j'ai arrêté de lire au volant. Non, c'est vrai, parce que les textos, je trouvais
qu'est-ce
ça mesquin.
Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie dans une vie? C'est terrible.
Non, les textos, je trouvais ça mesquin. Donc, avant, je lisais Critique de la raison pure de Kant. Et ben, vous avez raison, c'est dangereux sur l'autoroute. Michel est un homme à part, dans le genre tête en l'air. Quand vous étiez prof de philo, c'est le bac de philo aujourd'hui, vous êtes content, il vous est arrivé une drôle d'histoire juste avant de donner un cours à vos élèves.
C'est d'avoir laissé une substance illicite dans ma pipe après une nuit un peu de folie et d'avoir fumé cette pipe avant un cours que je donnais sur la béatitude.
Eh ben bravo. Maintenant vous le saurez grâce à Michel Field. Si votre prof a les yeux rouges, c'est pas obligatoirement la myxomatose. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, vous dit merci.
Bravo Jean-Luc.
Merci. Bravo Jean-Luc.
Et alors vous nous faites une transition formidable, hein, parce que dans un instant, on va parler de narcotrafic. Effectivement, c'est le thème de votre émission, Michel Field.
Oui, l'émission sans filtre. La première, c'est ce soir, 23h25, sur France 3. Et on en parle dans un instant avec Michel Field sur Europe 1 dans Culture Média. A tout de suite.
Cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1.
Une semaine exceptionnelle.
Tous les jours, tout au long de la journée,
venez rencontrer vos animateurs.
Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez.
Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses
et célébrez les succès d'Europe 1.
Entrez dans la grande famille Europe 1.
Pour en savoir plus et découvrir le programme,
rendez-vous sur europe1.fr.
Rubrique Club Europe 1.
PFG sera toujours à vos côtés. Alors en cas de décès, appelez PFG au 3012 pour une prise en charge immédiate de jour comme de nuit. Urgence décès 3012, un service PFG.
Quand votre déodorant à l'agonie vous dit dans un dernier soupir « Je fais de mon mieux, mais je suis vraiment sur la faim. »
Pas de panique, votre nouveau déodorant est déjà en route. Il arrive demain avec Prime. Produit du quotidien, livré en un clin d'œil, c'est sur Prime. Sous réserve du respect des heures limites de commande.
Ben j'ai fait le tri dans mes bijoux en or. Je les ai revendus chez Or en Cash. Et voilà, ça paye les soins du surf.
Revendez vos bijoux et profitez pleinement de votre été avec Or en Cash.
Or en Cash, achète cash.
Transaction réservée aux majeurs et soumise à réglementation. Paiement par chèque ou virement.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas.
Et oui, je reçois ce matin Michel Field, directeur culture et spectacle vivant à France Télévisions. Mais alors là, vous avez repris votre casquette d'animateur journaliste pour un nouveau rendez-vous baptisé Sans Filtre. Ça faisait un moment que vous n'aviez pas fait d'antenne, est-ce que ça vous manquait?
Bah, à partir du moment où j'ai rejoint Delphine Ernotte en 2015 pour diriger France 5, puis l'info, puis la culture, j'avais décidé que voilà, c'était incompatible avec l'antenne. J'en ai fait un peu hein, sur des événements. Il y a eu une émission sur le livre préféré des Français que j'ai fait à Strasbourg. Quand il y a eu l'inauguration de la Cité de la Francophonie à Villers-Cotterêts, je l'ai animé avec Claire Chazal. Bon, après, je suis jamais loin des plateaux. Je m'occupe des missions. Ben, on parlait de Karim, de ses sociaux. soir, du Grand Échiquier. Tous les concerts qu'on capte, je suis souvent là. Donc voilà, je suis dedans, dehors. Là, c'est une occasion de revenir à l'antenne. C'est pas la chose la plus importante. La plus importante, c'est que France 3 décide de se lancer dans un débat citoyen.
Mais vous m'avez pas répondu. Est-ce qu'il y avait un manque de votre part? Est-ce
non, que c'est quelque chose qui honnêtement pas, démangeait? Honnêtement non. pas. C'est très intéressant aussi de voir ses camarades travailler, ouais. de leur donner des conseils. Et avec l'expérience que je pouvais avoir, c'est vrai que... Alors, par moments, c'est vrai que quand il y avait un casting éblouissant au Grand Échiquier, je disais, merde, ouais, j'aimerais bien être là, même. Mais voilà, j'étais en régie, c'était déjà très bien.
Et alors, je le disais, vous êtes l'un des dirigeants de France Télé, mais là, votre nouvelle émission, elle ne dépend pas de votre unité culture et spectacle
pas
vivant.
Du tout,
vous n'êtes pas auto-choisi, quoi.
Non, voilà. non, c'est plutôt à l'issue de discussions avec notamment Philippe Martinetti, qui s'occupe du réseau France 3, et on se disait, autant il y a des très bons et grands débats de société, Julien Bugey en fait, ouais. la rédaction en fait, à l'échelle des territoires, comment faire surgir un peu cette parole? On parle beaucoup de la coupure entre les politiques et les ouais. citoyens, les médias et les citoyens, et c'est vrai qu'il y a 20 ans, j'avais fait une émission qui s'appelait Prise Directe sur France 3, qui était ça, c'est-à-dire aller dans des bars, dans des lieux de vie et faire parler les habitants. Intéressant de voir si 20 ans après, le débat spontané est encore possible. Tout s'est durci socialement, on le sait, les faits divers récents le montrent. Les réseaux sociaux ont complètement perturbé la donne. Ça nous intéressait de tester ça en se disant, ben, y a une échéance électorale, c'est les municipales qui arrivent. Allons dans les villes, dans les territoires. Prenons des thèmes nationaux, mais à hauteur ouais. humaine, à hauteur des habitants, des élus locaux. Et c'est ce qu'on a fait à Montargis,
ouais, c'est ça,
avec le soutien du réseau France 3. C'est-à-dire, à chaque fois que je me déplacerai, moi, je suis plutôt à leur service. Il y a des journalistes de la rédaction régionale.
Vous êtes accompagné de deux journalistes.
Voilà,
ouais.
qui, à la fois de la radio et de la télé, de Centre-Val-de-Loire, ouais. Rebecca était là. Et c'est vrai que j'ai besoin de leur expertise locale. Je me repose aussi beaucoup sur eux.
Et les techniciens de France 3 locaux.
Bien sûr.
C'est ça aussi. Et donc là, le premier numéro que j'ai pu voir, vous l'avez tourné dans la petite ville de Montargis, hein, 15 000 habitants, avec pour thème le narcotrafic. Et en fait, l'idée, c'est de faire parler tout le monde, quoi. C'est-à-dire police, justice, consommateurs, maire, préfet, tout le monde était là, en fait.
Oui, alors, il y a beaucoup d'améliorations. Alors, on l'enregistre vraiment dans les conditions du direct. On a nettoyé peut-être 7 ou 8 minutes, mais ouais. vraiment... L'idéal serait de le faire en direct, mais à
pourquoi
tard
pas en
comme
direct,
ça.
D'ailleurs.
Ben parce que pour des raisons de logistique, de coûts de production et tout, c'est vraiment un peu compliqué. Mais je tiens à ce que les gens qui parlent n'aient pas du tout l'impression qu'on va monter leurs propos et ça. L'intérêt de cette émission, c'est évidemment que là, sur le narcotrafic, il y avait la préfète de la région, le procureur général, le maire, la jeune commissaire de police récemment nommée et en face et à côté, des habitants qui avaient dû déménager parce qu'ils supportaient plus le narcotrafic, des consommateurs, des militants associatifs qui essayent de dissuader les jeunes d'y aller, des toubibs. Alors, j'ai lu ce matin, Sylvain Maire l'a raison, dans Le Parisien, il dit finalement tous les thèmes sont abordés et c'est un peu frustrant parce qu'aucun n'est ouais. approfondi. Ça, j'entends la critique et elle est juste. En même temps, c'est pas tous les jours que vous avez un habitant capable d'interpeller le préfet directement ou... Par exemple, un moment assez saisissant, il y a le père du victime, c'est-à-dire un homme qui a perdu son gosse dans un accident de voiture où le conducteur était sous stupéfiant, qui a interpellé le procureur général sur le fait que le coupable n'avait fait que 8 mois de tôle et que l'autre avait perdu son fils. Et ces échanges-là qui sont pas... c'est pas dans le clash, c'est un peu dans la souffrance, c'est un peu dans l'interrogation. Ça permet aussi aux institutionnels d'éclairer ce que les habitants et les citoyens ont du mal à comprendre. Puis il y a des témoignages assez bouleversants d'un drogué qui travaille maintenant pour la prévention, mais enfin vous l'avez vu, il est
très abîmé.
Abîmé. Ouais. Il est passé de 2 piqûres par jour d'héroïne depuis les années 90 à 2 par semaine. Là, il est suivi médicalement. Et sa façon, finalement, de rendre à la société ce qu'elle lui a donné pour un peu s'en sortir, c'est d'aller faire de la prévention en disant aux jeunes, regardez-moi, ne faites pas ça.
Mais je veux dire, typiquement cette séquence-là et même globalement le thème du narcotrafic, moi j'étais assez étonné de voir cette émission-là sur France Télévisions et je me suis dit tiens, c'est un changement quand même et c'est
pourquoi
un marqueur assez fort parce qu'on a plutôt l'habitude de voir des débats type justement c'est ce soir avec des experts qui se retrouvent en plateau comme dans C'est dans l'air aussi sur un plateau parisien. J'imagine que cette émission c'est aussi une réponse à cette critique qu'on peut entendre parfois sur France Télé, mais sur d'autres groupes aussi, hein, d'un journalisme trop parisiano-centré. Quoi.
Vous savez, quand j'ai pris la direction de l'info, la première déclaration que j'avais faite à la rédaction, dans les objectifs, je disais il faut rendre visibles les invisibles. Et c'était 2 ans ou 3 ans avant les Gilets jaunes. Je pense que la crise des Gilets jaunes a montré aussi à quel point les médias avaient du mal à se saisir d'un phénomène nouveau, non identifié. Alors, les violences, etc., ont rabattu ce phénomène à quelque chose de plus connu, mais le symptôme que c'était dans la profondeur de nos campagnes, la manière dont les gens se sont retrouvés fraternellement dans les ronds-points à l'époque, etc., en gros... c'est France 3 qui a fait le meilleur boulot, au sens où l'ancrage régional de France 3 lui permettait de comprendre cette dimension. Il y a des gens qui ont fait leur mai 68, les Gilets jaunes. Et ça, dans les rédactions parisiennes, on l'a assez peu vu et assez peu compris. Et je trouve que de toute ma carrière, j'ai pensé ça. Quand vous allez chez les gens, quand vous leur donnez la parole en allant chez eux, c'est pas la même chose que quand vous les faites venir à Paris. Vous savez, un provincial qui vient à Paris, il s'habille bien, il se met la cravate, il est trimballé dans nos studios. Il est, franchement, c'est très impressionnant.
Bien
nous,
sûr.
On a l'habitude, mais, et du coup, quand il va parler, il va pas parler de la même façon que quand il se retrouve dans sa ville, dans sa brasserie, et où c'est nous qui faisons, je dirais pas l'effort, mais qui avons l'attention d'aller chez eux. Voilà, c'est un peu des bons sentiments, tout ce que je dis, mais honnêtement, je le crois, et ça fait qu'il y a des régimes de parole un peu plus spontanés, un peu plus vrais.
Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, Michel Field vous donnait rendez-vous en septembre, donc le retour est déjà programmé, vous savez déjà à quel rythme, une fois par mois.
Jusqu'en décembre, on va rester sur une fois par mois. Et puis si jamais ça plaît, que la chaîne a envie, qu'on trouve l'argent nécessaire, parce que vous savez qu'on est en pleine restriction budgétaire aussi dans le service public, on peut espérer peut-être passer 2 fois par mois. L'objectif étant que ça pourrait accompagner, sans être une émission politique, ça pourrait accompagner les grands débats qui vont traverser le scrutin municipal de 26.
Sans filtre, c'est donc à voir ce soir, 23h25 sur France 3 et puis sur la plateforme France.
Oui, parce que c'est quand même assez tard.
Un peu tard.
Les gens qui travaillent le matin, j'en ai conscience.
Restez avec nous, Michel Field, pour suivre l'actu des médias dans un instant.
Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1. Alors, on va parler de la première de Laurent Ruquier sur T18. C'était ce week-end. Et puis, on va se poser cette question qui va vous intéresser, vous, Michel Field, parce que ça se passe chez vous sur France Télévisions. Est-ce que Léa Salamé va présenter le 20h de France 2 à la rentrée?
Il le sait.
On va le cuisiner, Michel. À tout de suite sur Europe 1.
Culture Média.
9h30, 11h sur Europe 1.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger, disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir.
Offre aux particuliers jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
TF1. Vibrez au rythme de la passion et des secrets d'un centre réputé de chant et de danse. Tout pour la lumière, votre nouvelle série quotidienne. Aujourd'hui à 18h sur TF1 et en streaming sur TF1+.
Salut, c'est BYD, le leader mondial et expert du véhicule électrique et hybride. BYD Dolphin Surf, la nouvelle citadine 100% électrique à partir de 19 990€. Du 11 au 30 juin, viens l'essayer et tente de la gagner. Voir conditions et règlements complets sur le site byd.com/fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Pensez à covoiturer.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Europe 1.
Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Michel Field ce matin, et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet.
Avec un coup d'œil aux audiences, bien sûr, avec les chiffres à retenir du week-end, Julien, il y avait le PSG hier soir sur TF1. Allez,
c'était le premier match du PSG depuis cette fameuse victoire en Ligue des Champions. 3 800 000 téléspectateurs ont suivi cette victoire 4-0 sur l'Atlético Madrid en Coupe du Monde des clubs. 21% du public, je vois Anissa Haddadi qui fait la boule.
C'est pas mal,
c'est la phase de poule, donc ça va s'accélérer après avec les matchs plus intéressants.
TF1 était quand même en tête des audiences hier soir. Samedi sur TF1 toujours, Arthur a fait peut-être un petit score avec son nouveau jeu, le dernier cercle, 1 800 000 téléspectateurs. Vendredi soir, Michel Drucker lui a réuni 1 200 000 téléspectateurs, 8% du public, pour son retour en prime avec Famille, je vous aime. C'est un bon score vu la concurrence, il y avait Masked Singer en face sur TF1.
Europe 1, le journal des médias.
C'est pas tout à fait le même public entre Masked Singer et Michel Drucker, je crois, mais je crois.
Il y en a qui peuvent circuler.
On revient tout d'abord sur les événements du week-end et samedi soir, c'était donc la première de chez Ruquier sur T18.
Laurent Ruquier est tête d'affiche de cette nouvelle chaîne. Il a lancé sa nouvelle émission à 20h pétante. Il est apparu assis sur un bureau où trônait une statue de Voltaire. L'animateur était entouré de plusieurs invités issus du monde de la culture. Clovis Cornillac, qu'on a reçu ici même dans Culture Média mercredi dernier, ou encore la comédienne Isabelle Carré. Alors après un bref tour de table, Laurent Ruquier a fait la liste des invités qui n'ont pas pu venir. C'est une séquence ironico-sarcastique qu'il proposait déjà dans On n'est pas couché sur France 2. Laurent Ruquier a cité la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui selon lui s'intéresse davantage au sport et à la victoire du PSG en Ligue des Champions qu'au monde de la culture, ça que c'est envoyé. Et puis il a évoqué aussi l'un de ses confrères, écoutez.
Nous ne recevrons pas non plus ce soir mon camarade Thierry Ardisson. Bon, faut dire qu'on s'est un peu fâché, c'est dommage, j'espère qu'on se réconciliera, parce que son livre, j'aurais vraiment adoré en parler, il paraît que ça s'appelle « J'ai tout inventé sauf la modestie », publié aux éditions « Un loup reste un loup ».
Ah oui, d'accord.
Il règle un petit peu ses comptes à travers cette nouvelle émission. On ne connaît pas les audiences de cette nouvelle émission de T18. Il faudra attendre septembre pour connaître les audiences de cette nouvelle chaîne qui est arrivée, on le rappelle, le 6 juin sur la TNT.
Vous regrettez Michel Field qui soit parti de France Télévisions, Laurent Ruquier ?
Oui, moi j'aime beaucoup Laurent. Vraiment, c'est quelqu'un de très curieux, de très sensible. Ouais. Donc c'est vrai qu'il est parti parce qu'il a jugé que il avait pas été bien traité. Il avait fait la même chose à Europe c'est voilà. Et moi j'aimais beaucoup on n'est pas couché parce que alors peut-être que ça répondait pas aux exigences d'audience d'une deuxième partie de soirée du samedi, et c'est vrai que pour le coup Léa a plutôt emporté la mise, mais cette soif de porter des émissions culturelles, on n'est pas si nombreux que ça à l'avoir dans le PAF, et il l'a, donc voilà, je lui souhaite bonne chance sur T18.
En tout cas, le mercato est encore loin d'être terminé, puisque la journaliste Léa Salamé semble être au cœur des discussions en ce moment.
Alors selon le Parisien aujourd'hui en France, l'animatrice de Quelle Époque devrait annoncer à ses patrons dans les jours qui viennent ses choix concernant la rentrée. On récapitule, on sait que BFM TV lui a fait une proposition pour l'animation d'un late show quotidien, mais les négociations n'auraient pas abouti. Mais il y a cette autre proposition qui court toujours, celle de récupérer les commandes du JT de 20h sur France 2. Alors on ne sait pas si c'est pour remplacer Anne-Sophie Lapix ou Laurent Delahousse le week-end, mais on se souvient, c'était en 2016 que Léa Salamé a déjà refusé ce poste qui, disait-elle, ne la faisait pas rêver. Alors, il faut dire que c'était à l'époque pour être joker de Delahousse. Là, si elle dit oui, elle devra quitter sa radio. Et toujours d'après le journal Le Parisien aujourd'hui en France, elle a du mal à faire son choix, elle n'en dormirait pas de la nuit en ce moment.
Et puis cap maintenant sur les programmes. Aujourd'hui, TF1 lance son nouveau feuilleton quotidien Tout pour la lumière.
Certains ont peut-être déjà regardé les 5 premiers épisodes qui ont été mis en ligne ce week-end sur Netflix. Je regarde Anissa, non, elle n'a pas encore regardé.
Non, j'ai pas encore regardé.
Elle pourra se rattraper tout à l'heure à 18h, puisque le premier épisode de Tout pour la lumière sera diffusé sur TF1. Il s'agit là de la 5e fiction quotidienne présente actuellement dans le PAF, la 5e. Et il y en a une 6e qui va arriver dans 2 semaines, ces nouveaux jours sur M6. Côté tournage, on revient sur TF1. Joy Esther qui incarne Victoria, l'héroïne de Tout pour la lumière, nous en a dit plus.
La somme de travail est incomparable avec
une fiction, on va dire, dite normale. Là, on tourne sur plusieurs plateaux. Ça peut nous arriver de démarrer sur un plateau, puis de faire un transfert, puis de revenir. J'ai eu des tonnes et des tonnes de textes à apprendre. Après, le fait d'avoir fait Nos chers voisins à l'époque, ça m'a quand même appris à apprendre très vite, même si c'était du format court. On tournait pareil 4-5 mois dans l'année. Je me suis focus sur mon travail. Moi, dès que j'ai eu les textes, j'ai commencé à travailler. Tous les week-ends, je montais à Paris pour aller voir ma fille. Donc, je profitais du train pour bosser mes textes.
Joy Esther, micro d'Europe 1, tout pour la lumière, ça commence à 18h, on verra côté audience si ça fait mieux que Famille Nombreuse qui a été jusqu'ici diffusée à 18h, j'ai regardé les audiences de lundi dernier, Famille Nombreuse faisait 1 million, on verra demain si ça fait mieux ou pas qu'un million.
Alors beaucoup de feuilletons sur TF1, beaucoup de jeux sur France Télévisions, vous avez certainement entendu cette critique récurrente sur le nombre de jeux à France Télévisions, Michel Field, il y a 9 jeux en quotidienne sur France Télé, et en revanche c'est vrai que la culture paraît moins présente, en tout cas sur des cases moins exposé. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, vous, en tant que directeur de la culture ?
C'est un éternel débat. D'abord, je n'aime pas l'idée de cloisonner la culture au secteur culturel estampillé, ouais, du spectacle, des émissions littéraires, etc. Il y a des tas d'émissions qui ne sont pas... Regardez, n'oubliez pas les paroles. C'est un jeu sur la chanson. C'est aussi une émission sur le patrimoine de la chanson française.
La culture populaire.
Et de la culture populaire. Ouais. Quand Stéphane Bern fait ses secrets d'histoire, c'est pas une émission culturelle estampillée, mais c'est un formidable passeur d'un savoir historique. Donc, je pense qu'on nous fait beaucoup de faux procès. Évidemment, il y a aussi
de déséquilibre.
Oui, il y a un déséquilibre, mais il faut bien comprendre qu'on ne peut pas travailler pour des niches.